Vous êtes bien à l'écoute Radio Pleine Lune, 93.8 MHz sur Radio Zone, comme tous les mercredis. Et maintenant, vous allez écouter les nouvelles des informels. Les nouvelles seront suivies à 19h par un memento de Marjolaine. Restez à l'écoute parce qu'après, il y aura un programme musical jusqu'à 22h. Radio Pleine Lune sur 93.8 MHz, les nouvelles des informels. Iran, le mariage temporaire avec ou sans sexe. Sur la question des relations sexuelles lors du mariage, l'Iran chiite, issu de la révolution khoméniste, aussi étonnant que cela puisse paraître, a été, dès l'origine, influencé par des penseurs ayatollahs ou laïcs, soucieux d'adapter la rigueur de la jurisprudence aux changements induits par la modernité. Les changements. L'âge de plus en plus tardif du mariage, qui laisse de nombreux jeunes dans l'abstinence forcée, l'extension des familles élargies vivant sous le même toit, le développement du célibat, la multiplication des divorcés, des veufs et surtout des veuves. Bref, comment autoriser les hommes, car c'est d'eux seuls dont se soucient les idéologues réformateurs, à établir une relation avec des femmes disponibles ? En instaurant le mariage temporaire entre contractants libres, rendant ainsi la prostitution plus ou moins légale. La mouta, c'est cette institution chiite qui permet un mariage, consommé ou non, de durée limitée, offre un espace de liberté dans le cadre religieux. Mais cette solution ne concerne pas la moitié de la jeune société iranienne féminine qui se voit imposer des interdits stricts et précis dans ses échanges avec les hommes, surtout dans une société dans laquelle le plus grand capital d'une fille est sa virginité au moment du mariage. La signification de la mouta en terme arabe est, je cite, « qu'un homme accepte de donner à une femme quelque chose pour une période spécifiée, en retour de laquelle il reçoit ses faveurs sexuelles, sachant qu'il n'y aura pas de mariage au début, ni de divorce à la fin. » La durée de l'union entre l'homme et la femme célibataire, qui peut aller d'une heure à 99 ans, doit être clairement stipulée, après quoi le contrat expire automatiquement. Il n'est donc pas sujet à dissolution par divorce. À part ses quatre épouses permanentes, chiffre maximal, l'homme peut donc avoir un nombre illimité de moutas. Bien évidemment, une femme n'a jamais plus d'un époux. L'argument de base en faveur de la mouta réside donc dans la différence de nature entre l'homme et la femme. L'homme aurait un besoin sexuel incontrôlable, il ne peut restreindre ses envies durant la période de menstruation et de grossesse de la femme. Pour éviter les rapports adultérins et décourager la prostitution ainsi que l'homosexualité, la mouta doit donc être légalisée. États-Unis, pour la plupart des candidats aux élections générales du mois de novembre, c'est la désagrégation de la famille qui serait la principale cause des maux dont souffrent les États-Unis. Selon les sondages, l'effritement des valeurs traditionnelles inquiète davantage les Américains que les difficultés économiques. Les principales accusées, les mères célibataires, c'est d'elles dont on devrait se débarrasser. Les Républicains et les démocrates entonnent le même discours. Ils œuvrent pour le renforcement des valeurs morales et préconisent la prière à l'école, ainsi qu'une réforme du système d'allocation aux mères célibataires, les incitant à reprendre un emploi. Il s'agit donc de consolider les valeurs que tout le monde a apprises sur les genoux de sa mère. D'un côté à l'autre des États-Unis, le déclin des valeurs morales vient en tête du programme électoral des candidats de la campagne 1994. Dans leur course aux mandats locaux ou fédéraux, les candidats sont de plus en plus nombreux à reprendre l'antenne sur l'évolution négative du style de vie familial des Américains. Les mêmes candidats expliquent des problèmes allant de la criminalité à la dégradation de la vie urbaine parce qu'ils perçoivent comme une rupture au sein de la chaîne de transmission des valeurs d'une génération à l'autre. L'exacerbation des valeurs familiales donne parfois lieu à des excès de bons sentiments frisant le ridicule. Cette année, il est courant de voir des femmes de candidats témoigner à la télévision avec le plus grand sérieux de l'engagement et de l'investissement de leur mari dans son rôle de père. Voilà au moins un quart de siècle que le débat politique sur les valeurs morales s'articule autour de l'affrontement gauche-droite sur le programme social des conservateurs visant à interdire l'avortement et à autoriser la prière à l'école. Aujourd'hui, ce débat est presque unanimement repris par les deux partis qui s'affrontent. Ces thèmes sont également en vogue depuis que le président Clinton met l'accent sur la responsabilité individuelle et tente de décourager les naissances hors mariage. Le facteur déterminant pourrait néanmoins bien être le lien de plus en plus fréquemment établi par la société entre l'éclatement de la famille et la criminalité, ce dernier paramètre constituant le thème le plus sensible des campagnes électorales en cours. Si vous interrogez les gens sur la solution à apporter au problème de la criminalité, la première réponse obtenue sera, et de loin, qu'il faut s'attaquer à la désagrégation familiale et aux familles. À en croire les campagnes électorales dans l'ensemble des États-Unis, il serait quasiment acquis que la criminalité et surtout la délinquance juvénile trouvent leurs origines dans le nombre croissant d'enfants grandissant dans des familles déchirées ou perturbées, les plus frappés étant les enfants nés hors mariage. Aujourd'hui, c'est le cas de 3 enfants américains sur 10, la proportion passant à 2 sur 3 dans la communauté noire. De nombreux conservateurs avancent que les programmes d'aide sociale en versant des allocations aux mères célibataires ne font qu'accentuer le problème. Jeb Bush, le fils du président du même nom et candidat républicain, résume ainsi le nouveau credo républicain. Le système d'aide sociale n'empêche pas l'émergence de la criminalité, il la favorise. Les démocrates sont toutefois aussi nombreux que les républicains à mettre l'accent sur la nécessité de mettre la main de fer. Des mesures énergiques destinées à décourager la conception d'enfants hors mariage, à faire travailler les gens et à punir ceux qui enfreignent la loi. Certains ne peuvent s'empêcher d'éprouver quelques inquiétudes vis-à-vis des a priori socio-économiques et raciaux qui sous-entendent ces programmes politiques. Malgré l'abondance des écrits inspirés par le thème des enfants de famille monoparentale, pas un seul candidat ne propose des mesures pour réduire le nombre des divorces. Il est vrai que ce problème touche surtout la classe moyenne, les naissances hors mariage étant un phénomène davantage répandu dans les couches sociales les moins favorisées. Dans le même ordre d'idées, peu nombreux sont les candidats qui évoquent les contraintes économiques qui conduisent souvent les deux parents des familles à petits ou moyens revenus à travailler à l'extérieur du foyer, leur laissant ainsi moins de temps à consacrer à leurs enfants. Et personne ne signale que la famille est aussi le lieu où s'exerce la violence la plus dure et la plus fréquente. Femmes et enfants battus, incestes, viols conjugales. Il suffit de voir le cas de Simpson, ce footballeur connu qui a assassiné sa femme qu'il battait comme plate depuis des années. Son procès risque de semer la zizanie dans la campagne électorale. L'ex-footballeur pourrait bien changer la donne des élections générales du 8 novembre en Californie. L'ouverture de son procès étant prévue pour le 19 septembre à Los Angeles, les candidats voient dans le présentateur de télévision vedette accusé du meurtre de sa femme un rival qui reléguera leur campagne électorale au second plan. Relation Nord-Sud, le travail des enfants, prochain conflit Nord-Sud. Le tiers-monde n'a pas beaucoup d'atouts dans la compétition mondiale, si ce n'est les faibles salaires et le travail des enfants. Que ce soit en Inde ou au Brésil, le travail des enfants est largement répandu dans le tiers-monde. L'Organisation internationale du travail estime qu'environ 250 millions d'enfants et d'adolescents doivent gagner leur vie par leurs propres moyens. En faisant travailler des mineurs, les employeurs compriment leurs charges salariales, ce qui leur confère un net avantage sur leurs concurrents des pays industrialisés. Le travail des enfants n'est pas la seule forme de dumping social que les pays en développement se voient reprocher. Ursula Engelen-Kefer, vice-présidente de la Confédération des syndicats allemands, déplore qu'en pratiquant le travail forcé, en interdisant les mouvements de grève ou la création de syndicats indépendants, ces pays se soient arrogés, je cite, « des avantages concurrentiels déloyaux à l'exportation et aient détruit des emplois chez nous ». Bien évidemment, les pays en développement protestent de toutes leurs forces contre ce protectionnisme insidieux. Selon eux, les partisans de ces dispositions sociales chercheraient seulement un prétexte pour retirer aux pays les plus pauvres leur unique avantage concurrentiel, des charges salariales peu élevées. Nombre de pays industrialisés occidentaux reprochent aujourd'hui à ces pays une autre forme de dumping social qui ne cesse de s'étendre, la limitation des droits des travailleurs. Des États comme Singapour ou Taïwan, par exemple, rejettent aussi bien la création de syndicats indépendants et le droit de grève que les principes de démocratie et de liberté d'opinion. Koweït, Barbie interdite par l'islam. Comme Salman Rushdie et Taslima Nasrin, Barbie fait aujourd'hui l'objet d'une fatwa. Un haut dignitaire koweïtien, responsable de l'application de la charia, la loi islamique, a interdit à ses fidèles d'acquérir cette coquette poupée. Motif, son corps aux courbes suggestives est celui d'une femme adulte et n'a rien à faire entre des mains enfantines. Et parce qu'elle véhicule le style de vie occidental de par son look et sa coupe de cheveux. Japon, pour la première fois, les homosexuels hommes et femmes japonais ont manifesté dans les rues de Tokyo. Leur défilé chanté et dansé a recueilli une quantité égale d'applaudissements et de huées. Du côté sport, sport à la chinoise. Les nageuses chinoises qui planent en rase vague sur les piscines du monde entier ne doivent pas leur succès à quelques troubles potions, mais à la souffrance. Dopée, pas du tout. Martyr et consentante. C'est du moins ce que vient de déclarer avec une étonnante fierté l'ex-championne olympique Zhuang Yang. Les Chinoises ont subi des conditions d'entraînement que l'on peut qualifier de véritables tortures pour se hisser au sommet, dit-elle. Entraînement 364 jours par an, avec permission de sortie pour le nouvel an chinois. Petit échauffement quotidien de 2 heures au gymnase, puis travaux pratiques de 6 heures en piscine. Nous nous entraînions le jour et la nuit avec pour seul objectif la performance parfaite. C'était le sens de notre vie. Ni télévision, ni loisirs, ni petits amis, ni droit de visite à la famille pendant les années d'entraînement. Les plus doués avaient droit à des séjours à la montagne, des stages en altitude décrits par la championne comme de véritables tortures. L'oxygène était si rare que les jeunes femmes pouvaient à peine respirer. En France, 6 membres d'une association anti-avortement condamnés à des peines de prison avec sursis. La chambre du tribunal correctionnel de Nanterre a condamné 6 des 7 membres du mouvement anti-avortement SOS Tout Petit à des peines de prison avec sursis allant de 1 à 3 mois. Ils étaient poursuivis pour avoir entravé les opérations d'interruption volontaire de grossesse le 11 décembre 1993 dans une clinique de Bourg-la-Reine. 5 hommes et 2 femmes avaient fait irruption alors dans les locaux de la clinique, s'installant dans le sas menant au bloc opératoire où ils avaient prié et chanté des cantiques avant d'être interpellés par les policiers un quart d'heure plus tard. Lors de l'audience, M. Dor, qui est aussi le chef de file donc, de cette organisation, médecin, âgé de 65 ans, avait rappelé son opposition à la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse et à la loi Neyert qui prévoit des sanctions pour ceux qui entravent les opérations d'interruption de grossesse et s'était montré déterminé en affirmant « Je ne regrette pas une seconde et je recommencerai ». Ce monsieur, donc, maître de conférence à l'hôpital, a déjà été condamné à 1 mois de prison avec sursis et 5 000 francs d'amende pour des faits similaires dans une clinique des Lilas en Seine-Saint-Denis. en France, la répression, mise en cause ou procès d'une exciseuse. La condamnation légère d'une Malienne par la cour d'assises de Paris inquiète les milieux qui pensent que pour ces mutilations de fillettes, la sévérité est dissuasive. La France s'émeut pour une nouvelle affaire d'excision. La cour d'assises de Paris a condamné à 1 an de prison avec sursis une Malienne pour avoir excisé 2 fillettes dans 2 familles africaines. Le procureur Mouton avait requis 3 ou 4 ans de prison ferme. Les parents des petites filles ont été acquittés. En 1991, une exciseuse malienne était condamnée pour la première fois à une peine de prison ferme, 5 ans. Et en janvier 1992, une mère gambienne écopait à son tour pour la première fois de 5 ans d'emprisonnement, dont 1 ferme. Plusieurs associations de défense des droits de la femme ou qui luttent pour l'abolition des mutilations sexuelles ont critiqué sévèrement le jugement jugé par elles trop clément de Paris. Ils risquent à leurs yeux de décourager le combat des Africaines contre l'excision. 2 doctrines paraissent ici s'opposer. D'un côté, le procureur Mouton a affirmé avec force que la répression participe à la prévention de l'excision. C'est aussi l'avis d'une autre avocate, maître Linda Veil-Curiel, qui souligne l'effet exemplaire de la lourde condamnation d'une exciseuse en 1991. D'autres, par contre, estiment que bien des Africaines, souvent illettrées, pétries de traditions ancestrales et soumises à leur milieu, ne comprennent pas l'enjeu de ces procès et que la priorité doit être donnée à l'information et à la prévention, notamment lorsque ces Africaines viennent retirer leur permis de séjour. En Suisse, la retraite à 64 ans pour les femmes entraînerait le chômage pour 35 000 personnes. Pour l'assurance chômage, l'augmentation des sans-travail engendrerait des frais supplémentaires évalués à environ 350 millions de francs. Le relèvement de l'âge de la retraite des femmes à 64 ans pourrait exclure 35 000 personnes du marché du travail. Cela occasionnerait à l'assurance chômage des coûts supplémentaires de 350 millions de francs. Le relèvement de l'âge de la retraite des femmes de 62 à 64 ans permettrait à l'ABS, par contre, d'économiser 870 millions de francs par an. L'allongement de la vie active des femmes pourrait entraîner des dépenses difficiles à chiffrer pour l'assurance maladie et l'assurance accident. Pour ce qui est de l'assistance publique, elle pourrait être davantage sollicitée pour des cas de chômeuses en fin de droit. Il est démontré que le chômage de longue durée frappe plus fréquemment les personnes d'un certain âge. Quant au régime des allocations pour perte de gain, il pourrait escompter des recettes supplémentaires de moindre importance. Toujours en Suisse, du côté des prisons, c'est la première fois dans l'histoire presque centenaire des établissements pénitentiaires de Hindelbank qu'une femme dirigera cette prison réservée aux femmes. Marianne Emo, 48 ans, bernoise et journaliste, aura 90 détenues sous sa responsabilité. Elle prendra ses fonctions début 1995. C'était les nouvelles de Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. Avant de passer la parole à Marjolaine qui va vous parler de ses coups de cœur et des rendez-vous pour cette semaine, on écoute de la musique. Là, on écoutait en accompagnant les nouvelles, c'était la pianiste Irene Schweitzer. On écoute un autre morceau de ses solos, Fox Trottel. Thank you. Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Je vous rappelle de ne pas oublier d'aller voter ce week-end et d'accepter donc la loi, dites oui à la loi, qui interdira toute discrimination raciale. Et maintenant, quelques rendez-vous pour toutes celles qui sont intéressées à ce qui se passe autour de la question des femmes à Genève. D'abord, le comité assurance maternité genevois nous annonce que la prochaine réunion du comité assurance maternité aura lieu le mardi 27 septembre à 20h30 au site 16 rue des Chaudronniers. L'ordre du jour, suivi de l'exposition, colloque Famille en mouvement les 11 et 12 novembre, organisation de la journée du 25 novembre. D'autre part, le centre femme Nathalie Barnet vous invite toutes femmes qui veulent s'engager dans leurs activités. Elles organisent une grande réunion le vendredi 30 septembre à 19h30 avec toutes celles qui ont déjà une responsabilité au centre de femmes et avec toutes celles qui désirent se renseigner sur les différentes possibilités qui sont offertes pour participer à la gestion, à l'organisation du Centre Femmes Nathalie Barnet. Je vous rappelle l'adresse, le 30 avenue Péchier, donc à Champelle. Des nouvelles aussi de la part des femmes en vert pour le Rwanda. Après la tragédie humaine qu'a subi le Rwanda ces derniers mois, les femmes en vert pour le Rwanda aimeraient continuer à alerter l'opinion, à maintenir l'attention du public sur la nécessité de la solidarité internationale bien comprise afin de soutenir le peuple et les démocrates rwandais dans la difficulté, dans la difficile tâche de reconstruction nationale. Les organisateurs de femmes en vert pour le Rwanda, c'est l'Association des femmes rwandaises et l'association Suisse Rwanda. Les actions prévues par Femmes en vert sont des manifestations silencieuses pendant 30 minutes portant un habit ou un badge vert, symbole d'espoir et de renaissance pour le Rwanda. Ces manifestations silencieuses ont commencé le mardi 26 juillet. Elles auront lieu le 26 septembre à la place piétonne du Mont-Blanc, puis elles vont se poursuivre à Quinzaine dès le 11 octobre à la place du Mollard de 17h45 à 18h15. Toujours du côté du Rwanda, l'association Suisse Rwanda soutient une action d'aide aux orphelins. Une équipe de 3 personnes est actuellement au Rwanda afin de mettre en place des petites unités de réadaptation dans la région où sont concentrés beaucoup d'enfants qui ont momentanément ou pour toujours perdu leurs parents. Ces unités se composent d'une douzaine d'enfants entre 0 et 16 ans, encadrés par au moins 2 femmes rwandaises. Le but à moyen et long terme est de permettre une réinsertion sociale et de rendre ces unités aussi autonomes que possible au moyen de la reconstruction d'un lieu d'habitation et de l'attribution d'un lopin de terre pour permettre une petite agriculture et éventuellement un élevage de ferme. L'association Suisse Rwanda cherche avant tout à travailler en étroite collaboration avec la population. Elle se met à l'écoute des besoins spécifiques de chaque région et par la présence sur place tentera de résoudre les problèmes les plus aigus afin de rendre leur autonomie à ces enfants et ainsi de leur permettre de retrouver un avenir. Si vous êtes intéressé et désirez soutenir ce projet, vous pouvez adresser votre don au, je cite, le CCP numéro 12-16479-0. Je répète, CCP 12-16479-0. Autre nouvelle, cette fois-ci, le réseau ELISA, un engagement concret à la portée de tous pour la défense des réfugiés. Si un candidat à l'asile le désire, il a le droit de se faire assister par un mandataire lors de l'examen de sa demande. Le réseau ELISA, donc, fait une session de formation le 15 octobre 1994 pour toutes celles et tous ceux qui seraient intéressés de devenir mandataires requérant d'asile. Cette session de formation aura lieu donc le 15 octobre à la paroisse de Sainte-Jeanne de Chantal, à côté de l'école des Charmilles, 3 avenue d'Aïr, place des Charmilles. Cette session aura comme but, je vous dis, de 9h à 12h30, il y aura une introduction sur les textes de loi concernant les réfugiés. Et de 14h à 18h, on parlera de l'enquête sur les motifs d'asile. Donc, toutes celles qui sont intéressées, allez à cette session de formation de Elisa à la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal, à 3 avenue d'Aïr, le 15 octobre. Et puis, une formation syndicale de la VPOD destinée à toutes les militantes et à tous les militants, Histoire des femmes DDS aux suffragettes, qui auront lieu le 6 et 7 octobre au motel d'Yverdon-les-Bains. Et ce sera Thérèse Moreau, écrivaine et historiographe, qui donnera ce cours. Et un peu de musique avant le memento de Marjolaine.
You ain't nothing but a house. Just go there. Creep on, daddy, creep on. I don't want you snooping on.